chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir Nathalie Barge, pour vous accompagner dans le débat de votre émission quotidienne interactive AVA, à votre avis. Vous avez donc répondu à nos questions sur le Facebook de VO Afrique et on va continuer cette discussion en vous appelant par téléphone. L'Union africaine a adopté des réformes visant à obliger les États membres à respecter leurs obligations financières et à rendre l'organisation plus efficace et moins dépendante des donateurs étrangers. Les pays membres doivent notamment verser un total de 400 millions de dollars au Fonds pour la paix et certains ont même prévu une taxe sur les importations. Il s'agit de 24 pays africains sur 55. Alors la question c'est comment s'y prendre pour réformer l'Union africaine et quels changements vous paraissent nécessaires. À vous, chères auditrices et chers auditeurs. On rappelle que le président rwandais Paul Kagame est actuellement le président en exercice de l'Union africaine et qu'il va passer le relais en janvier, donc bientôt, hein, janvier 2019, au président égyptien Abdel Fattah el-Sissi. Et donc Paul Kagame, hein, ce week-end, lors du sommet donc, consacré notamment à ses réformes, sommet extraordinaire. Il a salué les progrès réalisés donc ce week-end à Addis Abeba, malgré le rejet de certaines de ses propositions de réforme. Et il a dit « Aujourd'hui, nous avons lancé la commission sur une trajectoire plus performante avec des effets bénéfiques qui se feront sentir pendant des décennies. » Il a dit également « Nous avons fait notre part du travail pour poursuivre le voyage et je m'attends, a-t-il dit, à ce que le prochain président poursuive sur la même lancée. » Donc là, il parle donc du président égyptien qui, lui, n'est pas très connu pour être pro-réforme. Et on rappelle également que M. Kagame avait été chargé en 2016 par l'Union africaine de remanier effectivement cette organisation. Il avait dévoilé ses propositions l'an dernier. Donc nous allons en discuter avec certains d'entre vous que nous allons avoir au téléphone. On a peut-être déjà un auditeur en ligne. On a Haruna Kabore en ligne qui est au Burkina Faso et qui lui a écrit sur notre Facebook « Ces réformes n'aboutiront jamais ». Alors pourquoi vous pensez que ces réformes ne vont pas aboutir, Haruna?
Oui, je dis que ces réformes ne vont jamais aboutir parce qu'il y a une volonté réelle des dirigeants africains. Et l'égoïsme des dirigeants africains fait que vraiment ces réformes ne vont jamais aboutir. Paul Kagame n'est pas le premier président à vouloir des réformes. Avec le président Thomas Sankara, qui avait en tout cas demandé aux Africains de payer la dette, il y a le président Kadhafi de la Libye, qui avait en tout cas entrepris aussi des réformes, mais ça n'a jamais abouti. Puisqu'il y a des dirigeants africains, je ne sais pas, mais en tout cas, ils n'ont pas une réelle volonté. Et on a vu que l'Afrique du Sud s'est opposée à une réforme qui voudrait que, en tout cas, le président de la commission, ce commissaire soit nommé par un président, mais on voit qu'ils ont déjà refusé. Donc, et en plus de ça, les Occidentaux, vraiment, ils seront en tout cas, ces réformes ne soient pas, en tout cas, n'aboutit pas. Donc pour moi, ce n'est pas la première. Paul Kagame n'est pas la personne à entreprendre des réformes. Des réformes dans l'Union africaine, en tout cas, ça ne va jamais aboutir. Donc moi, je pense que ça, c'est une volonté du président Kagame, mais le courage du président africain n'y est pas. Donc je pense que ça ne va jamais aboutir.
Et vous avez écrit qu'il fallait avoir plus d'un Paul Kagame pour qu'elles aboutissent. Est-ce que ça veut dire que vous pensez quand même que Paul Kagame, lui, il a mis un certain dynamisme, une certaine énergie dans ses réformes, mais que bon, ça ne va pas être forcément être poursuivi par le président suivant?
Oui, ça c'est clair. Paul Kagame, il a eu une réelle volonté, mais il n'a pas été suivi. On a vu même que l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, il y a une des réformes que l'Afrique du Nord a refusé. Donc, je pense qu'il n'y a pas des présidents courageux comme le président rwandais Paul Kagame la volonté d'une seule personne, en tout cas parmi ces 50 chefs, 50 chefs d'État, je pense que c'est difficile. Il faut encore des présidents courageux comme le président Paul Kagame. Sinon, je ne pense pas, en tout cas, nous ferons encore des années et des années tant qu'il y ait vraiment un changement. L'Union africaine.
Merci beaucoup, Haruna. Il est vrai que malgré quelques avancées, la majorité des 55 États membres ont rejeté le projet de Paul Kagame de donner au chef de la commission le pouvoir de nommer lui-même ses adjoints et commissaires. Et c'est un problème assez important parce qu'il y a souvent des problèmes à cause de ça, effectivement. Et s'il n'a pas ce pouvoir-là, effectivement, il est obligé de se retourner un petit peu plus haut, on ne sait où d'ailleurs, pour que ça se passe d'une meilleure manière. Donc c'était pour un petit peu responsabiliser un petit peu plus la commission en question. Et le sommet, par contre, a soutenu les mesures visant à générer des recettes auprès des États membres et à sanctionner ceux qui ne versent pas leurs contributions. Et on rappelle que l'Union africaine dépend de donateurs étrangers qui paient environ 54% d'un budget total de près de 700 millions de dollars. Je crois qu'on a un autre auditeur en ligne. On a Tidiane Botegueba au Cameroun. Bonsoir Tidiane. Alors vous dites que vous, la décision est bonne.
Bonsoir à vous madame et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
Merci. Alors vous pensez que la décision est bonne sur le papier, mais qu'au fond c'est une décision qui risque de ne jamais voir le jour. Un petit peu la même chose que Haruna. Et pourquoi, en ce qui concerne sa mise en application?
Oui, vous savez, l'Union africaine, limite toujours sur quand même des bonnes décisions. Mais l'Union africaine, en tout cas, existe seulement par le nom, parce qu'on ne voit pas vraiment une décision contraignante vraiment provenant de l'Union africaine. Par exemple, dans les pays les pays africains, nous voyons toujours l'Union africaine avec vraiment venir à la dernière ligne droite après que ça soit parti. C'est par exemple dans la zone CDAO, il faut d'abord que l'organisation sous-régionale s'implique, il faut que vraiment l'Union européenne ou l'ONU, mais l'Union africaine, en tout cas ça existe toujours par le nom. Donc moi, je vois mal comment vraiment cette décision qui vient de prendre l'Union africaine verra à jour, du moment où l'Union africaine, en tout cas, dépend toujours des Occidentaux. Donc, pour quand même son indépendance totale, il faut quand même que l'Union africaine, cette organisation la plus haute, institution africaine, puisse quand même avoir son indépendance. Son indépendance financière, parce que sinon, je vois mal comment vraiment cette institution pourra quand même prendre des décisions qui contrediront les décisions de donateurs, madame.
Merci beaucoup, Tidiane, pour votre réflexion sur cette question. Et on peut dire aussi que l'Union africaine a tout de même accepté de réduire le nombre de ses commissions de 8 à 6. Donc voilà, il y en a deux de moins. La paix et la sécurité fusionnent maintenant avec les affaires politiques et le commerce et l'industrie avec les affaires économiques. On rappelle que c'est Moussa Faki Mahamat qui est président de la commission. Et ce week-end, samedi exactement, l'Union africaine a lancé un fonds servant à financer les réponses aux crises avant qu'elles ne dégénèrent en conflit. Et il devrait donc être doté à terme de 400 millions de dollars. Et jusqu'ici, 60 millions de dollars ont été recueillis. Il s'agit du Fonds pour la paix et il fait partie donc de ces propositions visant à régler ces problèmes d'argent, ne pas être dépendant de donateurs étrangers. Et il y a notamment, comme je le disais tout à l'heure, cette taxe sur les importations qui est de 0,2% destinée à financer l'organisation. On en reparlera tout à l'heure, je crois qu'on a un autre auditeur en ligne. Alphonse Mbouaki en ligne, bonsoir Alphonse.
Bonsoir, madame.
Alors vous, Alphonse, vous mettez en vue plusieurs points importants. Diminuer la bureaucratie et la lenteur administrative. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus de ces problèmes de bureaucratie, somme toute assez universels.
Mais vous savez, madame, qui a un pléthore du personnel et vous savez qui gagne beaucoup d'argent pour rien, alors que cet argent qui est affecté à des rémunérations peuvent être destinées à des projets très très utiles pour l'Union africaine. Donc il faut qu'on diminue le personnel et qu'on prenne seulement l'essentiel des fonctionnaires de l'Union africaine qui engorger l'Union africaine de beaucoup de gens, donc ça ne sert à rien. Et ensuite, madame, nous ne voulons pas que, moi je ne veux pas que l'Union africaine soit un cercle d'amis, hein, qui, lorsqu'il y a, lorsque les certains régimes oppriment le peuple, l'Union africaine ne se dresse pas contre ces régimes. Donc il faut une Union africaine qui a de l'autorité sur des régimes despotes, des régimes qui changent de constitution pour se maintenir au pouvoir, comme le cas au Togo. Donc l'Union africaine devait être en première ligne pour pouvoir contrer les PLOIP de M. Faure à rester au pouvoir. Et donc, je pense que l'Union africaine, aujourd'hui, elle est choisie de l'organisation de l'unité africaine. Donc, ce sont des amis qui s'unissent et qui ne veulent pas de changement démocratique. Ensuite, par rapport à la finance, je souhaite que l'Union africaine soit indépendante vis-à-vis des donateurs extérieurs. Vous savez, la main qui donne souvent tendance à dicter sur la main qui reçoit. Donc, il faut l'indépendance financière, comme les cas des 0,2% qu'on doit prélever des importations. Alors, ça fait ça gonfler le budget africain et puis ça permettra à l'Union africaine d'être indépendante sur le plan financier et répondre à beaucoup de besoins, des besoins de guerre, des besoins de terrorisme. Aujourd'hui, le terrorisme, c'est une épine en Afrique. Alors, il fallait que l'Union africaine soit dotée d'une armée forte, financée par elle-même, qui soit à mesure, équipée par elle-même pour qu'elle soit à mesure de pouvoir neutraliser, annihiler le terrorisme au Sahel et puis en Somalie. Là où il y a des conflits, l'Union africaine reste toujours latente, elle est passive, elle ne fait rien. Et pourtant, on voit des organisations régionales comme la CDE se mettre en première ligne. Alors que c'était l'Union africaine qui devait jouer un rôle prépondérant, un rôle de première place dans les conflits africains. Donc,
merci beaucoup, madame, Alphonse. Un grand merci, Alphonse, pour votre développement sur cette question. Je reviens sur la fameuse taxe sur les importations destinée à financer l'Union africaine. On rappelle que environ 24 pays sont en train de la mettre en place et les États-Unis ont critiqué ce projet, disant qu'il viole les règles de l'OMC. En effet, la mission américaine auprès de l'Union africaine a déclaré soutenir les objectifs d'autofinancement, mais s'opposer aux mesures commerciales pour les atteindre. La déclaration américaine dit, je cite, « Nous sommes fiers de notre partenariat avec l'Union africaine et nous continuerons à travailler avec elle pour trouver des moyens efficaces d'apporter la paix et la sécurité au continent. » Donc voilà, ça c'est la question financière, toujours la plus importante finalement, qui fait que l'Union africaine n'est pas très indépendante. Et on peut rappeler aussi que l'Europe est un très grand contributeur, notamment de l'Union africaine. Je voudrais, avant qu'on prenne un autre auditeur, lire le commentaire de Mavé, que nous n'avons pas en ligne. Elle aurait dit, pour nous, Africains, nous pensons qu'une meilleure réforme, c'est le changement de mentalité de nos dirigeants respectifs qui font partie de l'équipe composante de l'Union africaine, ou carrément le changement de mode de désignation des personnes qui doivent la diriger. Ça, c'est intéressant. Comment voulez-vous, dit-il, que les pays membres puissent honorer leurs engagements de tout genre, sachant qu'il y a aussi longtemps que ces chefs d'État sont loin de respecter même 30% de leurs obligations envers leur propre peuple, dit Mavé. Et il ajoute donc, pour que les choses marchent sur tous les plans pour l'Union africaine, une réforme des ressources humaines doit être envisageable. Cet aspect est très important, dit-il. Il est à Kananga, en République démocratique du Congo. Et Freddy, un autre Facebooker, de lui répondre aussitôt, ces vieux dictateurs doivent d'abord quitter le pouvoir. Ils sont eux-mêmes un frein au développement, pense-t-il. On a un autre auditeur en ligne. Youssouf, en ligne. Bonsoir.
Oui, bonsoir à toute l'équipe de VOA Afrique, aux auditeurs, auditrices.
Alors vous, Youssouf, vous pensez que c'est une autre publicité sans contenu que vient de lancer cette organisation pour occuper, dites-vous, l'intellectualité africaine pendant que l'essentiel se trouve bien ailleurs. On vous écoute, on aimerait en savoir plus.
Oui, madame, écoutez, d'abord, permettez-moi de féliciter l'auditeur de Kananga, Mavé, qui a donné un commentaire vraiment que j'approuve totalement. Cela dit, cette idée venant du président Kagame du Rwanda, qui ne cesse d'innover, même si la chasse aux opposants n'est acceptable sous aucun prétexte pour nous, cela peut paraître très bonne dans sa forme. Mais dans le fond, quand on sait que cette organisation repose étroitement entre les mains d'une classe de tricheurs aguerris, tous membres influents de l'Union africaine, avec le Conseil de paix et de sécurité qui repose étroitement entre les mains de fer de l'Algérie, de la pensée unique d'un président très affaibli mais toujours aussi résistant au changement, moi je crains fort que cette réforme ne soit une autre publicité sans réel contenu que vient de lancer l'Union africaine après le lancement à Kigali au Rwanda en 2016 du passeport africain, ou encore la promotion textuelle de la libre circulation des biens et des personnes pour ne serait-ce qu'occuper l'intellectualité africaine pendant que l'essentiel se trouve bien ailleurs. Alors, il nous faut sortir résolument en tant qu'Africains des effets d'annonce pour être plus concrets, parce que toute souveraineté s'arrache. Elle ne se prostitue pas, je m'excuse du terme, et tant que l'Afrique ne s'adjugera pas le costume de visionnaire, nous serons toujours traités comme des moins que rien. Alors, une union dont le siège est construit par la Chine, avec un budget de fonctionnement subventionné à hauteur de plus de 90% par l'Union européenne, qui malgré tout n'empêche la misère des peuples africains soumis à la malgouvernance de devenir un cancer, et s'il faut en plus surtaxer l'importation déjà quasi insupportable pour nous, je pense que juste pour atteindre cet objectif, c'est voué d'avance à l'échec, il n'y a pas d'autre mot. Plutôt donc que de tailler nos budgets à la mesure de la dictature, le maintien au pouvoir coûte que vaille, on peut bien atteindre les objectifs de nos bonnes intentions sans que le ciel nous tombe dessus. C'est juste une question de conviction, de crédibilité et surtout de bonne foi entretenue dans la continuité, j'allais dire.
Un grand merci, Youssouf. C'est toujours un plaisir d'écouter votre talent littéraire, n'est-ce pas? Vous avez beaucoup de charisme dans l'explication de ce que vous pensez. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Youssouf. Avant qu'on prenne un autre auditeur, je voudrais lire le commentaire de Yadama. Yadama, qui est à Kananga aussi, en République démocratique du Congo. Et il dit sur notre Facebook, c'est une bonne mesure, donc en pensant aux réformes de l'Union africaine, mais dit-il, l'Union africaine doit assumer ses responsabilités, elle doit prendre des décisions, créer une loi que tout pays doit suivre, elle n'est pas assez compétente au point de se laisser écraser par d'autres comme les États-Unis ou l'Union européenne, entre autres pays, dit-il. Il ajoute, or, elle devrait se suffire d'elle-même. Elle est même dominée par de simples présidents, dit-il, qui ont tout à dire sur elle. Vraiment, elle doit s'éveiller. Donc, ça, c'est le point de vue de Yadama. Je crois qu'on a un autre auditeur en ligne. On a Diara en ligne. Diara Kanyoumé, bonsoir.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir à toute la rédaction de VOA Afrique.
À vous la parole.
Ok, merci de me donner la parole. À mon avis, je pense que les auditeurs des groupes... Les auditeurs de Côte d'Ivoire, vraiment, Issoufou Ouédraogo lui l'a bien dit. Donc, il faut imaginer qu'en Afrique, l'Union africaine, vraiment, elle ne joue pas leur rôle. à mon avis, par rapport à beaucoup de crises politiques qui se roulent en Afrique ici. Par exemple, on a vu au moins l'Union africaine, ils ont participé à plusieurs au moins crises politiques en Afrique, par exemple, comme la Côte d'Ivoire ou bien au moins, la, au moins notre pays comme le Mali. Même au moins Adama Barrow, le moment que lui était au pouvoir, l'Union africaine a participé, mais il n'a pas joué son responsabilité parce que le président sortant, lui, a proposé certaines sommes. Donc l'Union africaine, ils ont accepté, mais quand le nouveau président il est venu vraiment, il a vu que vraiment le caisse de l'État était vidé. Quand le nouveau ancien président, lui, a proposé jusqu'à Guinée équatoriale, il a vidé le caisse de l'État. Donc, avec au moins 11 voitures présentées avec 11 milliards de dollars. Donc, je pense que vraiment souvent, l'Union africaine, ils vont à leur boulot, mais souvent, leur mission, ça a échoué dans leur main. Donc, ils doivent, par exemple, comme l'Union européenne, à mon avis, Nathalie.
Un grand merci, Diarra Kanyoumé, pour votre réflexion sur cette question, hein, les réformes de l'Union africaine. On a notamment le commentaire de Thierno. Thierno qui a écrit sur notre Facebook le changement qu'il faut opérer, chasser tous les chefs qui ont fait plus de 2 mandats pour éviter de modifier et éviter de modifier pour éviter pardon éviter de modifier les constitutions, réformer tous les systèmes nécessaires, dit-il. Donc ça c'est Thierno. On a Armel qui dit c'est bien, mais ces réformes ne sont pas des réformes sans application. Ça, c'est la réflexion de Armel. On a Hassan qu'on essaye de joindre en ligne. Il est à Djibouti. Il dit l'Union africaine a besoin de plus de réformes. On aimerait bien en savoir plus. Mais on a Abdoulaye en ligne. Abdoulaye, bonsoir.
Bonsoir, madame. Bonsoir, chers amis de la VOA.
À vous la parole.
Oh, chez nous ici, il y a un proverbe que nous... Nos parents nous disent, ils disent que la main qui reçoit est toujours en bas. Autrement dit, celle qui donne est au-dessus. Donc prenez là tout le sens de l'Union africaine qui veut s'affirmer en tant qu'acteur international important, indépendant, souverain, mais qui n'a pas les moyens de sa politique. Le siège même est déjà un gage de ce que l'Union africaine n'a pas, est encore adolescente. C'est la Chine qui a financé ce siège, tout le monde le sait, et le budget de fonctionnement est en grande partie soutenu par l'aide extérieure. À partir de quoi les chefs d'État peuvent-ils se réunir aujourd'hui pour faire des réformes qui vont garantir à cette Union-là une souveraineté, une indépendance pour une meilleure coordination de ses activités sur le terrain? J'en doute, madame.
Merci pour votre réflexion, Abdoulaye. On a la réflexion de Georges Nkaba qui dit « Cette organisation n'a aucune bonne raison d'exister. Obliger les pays membres à respecter leurs obligations est, à mon avis, dit-il, un lourd fardeau de plus pour les pays comme le Congo-Brazzaville qui a sérieusement des difficultés à payer les salaires mensuels des travailleurs. » C'est Georges Nkaba, donc, qui doit être de la République du Congo. On rappelle peut-être que ce sommet, finalement, il a été dirigé pour la dernière fois par Paul Kagame, hein, et c'était peut-être sa dernière chance, hein, de faire adopter des mesures avant de passer le relais à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, que les observateurs estiment moins enclin aux réformes. Je ne sais pas si on a un autre auditeur en ligne, mais on a peu de temps. Steve Boko, il nous faut 15 secondes avec vous, pas plus. 15
vous
secondes. Oui, oui, allez-y, 15 secondes, on est à la fin.
Ok, je vois que sincèrement, les réformes en Afrique, sincèrement, je pense qu'on doit essayer de les mettre en vigueur. Parce que nous constatons ici, même en Afrique, même l'Union africaine, les cotisations, certains pays africains n'arrivent même à s'acquitter de cela. Donc je pense qu'on doit essayer de les forcer ou de les sanctionner sévèrement à cela.
Un grand merci, cher auditeur. Un grand merci à Joselle Morissin et à Michel Joseph à la production. Grand merci à toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs. À très bientôt. Au revoir.